Alors, le jour retenu pour la naissance de Clotilde de Vaux est le 3 avril 1815. C'est son jour officiel de naissance. Mais la vérité nous oblige à dire qu'elle est très probablement née, je dis très probablement, c'est sûr en fait, le dimanche 2 avril vers 11h du soir.
À l'anniversaire.
Voilà. Cela fait donc très précisément 200 ans qu'elle est venue au monde. 200 ans fêtée à l'abbaye. Alors, celle qui va devenir la muse, l'égérie, l'inspiratrice d'Auguste Comte, son démesurément grand et malheureux amour. Qui était véritablement cette femme? Comment a-t-elle vécu? Et en quoi son existence reflète un milieu, un cadre de vie, une époque? Quelle était son originalité, ses idées, ses manières de penser, de sentir? Quelle fut sa postérité? Autant de questions que nous continuons à nous poser. À travers elle, c'est la condition féminine qui affleure. Ce sont les rapports homme-femme qu'il faut interroger. C'est aussi, nous le verrons, une philosophie de vie qu'elle incarne, une sagesse face à de multiples épreuves qui forcent l'admiration et ne méritent certainement pas l'oubli. Précédant d'une année dans la tombe, Marie du Plessis, vous savez, celle qui a fourni l'héroïne de la Dame aux Camélias, mourant comme elle dans la fleur de l'âge de la même cruelle et implacable maladie, la phtisie, tuberculose, hein, très mal connue en ce temps, qui de ce fait était quasiment incurable, la douce et tendre Clotilde conservant jusqu'au seuil de sa vie la fraîcheur de son teint, les marques indéniables de sa beauté, fut tout le contraire d'une courtisane, d'une tête légère, désordonnée et influençable. Elle plaisait parce qu'elle avait l'esprit ouvert, mêlé d'une certaine forme d'ingénuité, d'innocence même, une grande fierté, sans amour-propre excessif, une attitude généralement empreinte de sollicitude à l'égard d'autrui, un attachement à la vie à travers la nature, les fleurs en particulier, un esprit poétique et inventif, en dépit du fait que ses poèmes, comme ses inventions littéraires, ont souffert de ses deux plus grandes lacunes, une formation intellectuelle insuffisante et un trop grand isolement. Ce que nous trouvons le plus remarquable chez elle, c'est sa défense et illustration de la féminité, son préféminisme patent, qui n'est pas aussi éloigné de celui de George Sand comme elle pouvait elle-même le croire. En plus qu'Auguste Comte la poussait dans ce sens, se démarquer de George Sand, etc. C'est la vigueur de certaines de ses idées à travers des aphorismes puissants, c'est la beauté de sa plume épistolaire lorsqu'elle s'adresse à son auguste ami, une plume sans doute très travaillée, mais qui sait redonner le mouvement du naturel et de la spontanéité. C'est le tact avec lequel elle a su affronter les transports maladroits et parfois odieux de son énamouré. C'est cette volonté de ne pas blesser, de préserver toujours le plus précieux, la douceur du sentiment et la force de l'amitié. Charlotte Clotilde Joséphine Marie. Alors, Marie, c'est le patronyme de son père, c'est pas un prénom. Hein, est née au 30 rue du Cadran, aujourd'hui 24 rue Léopold Bellan, dans un modeste appartement parisien. Ses parents ne sont pas fortunés, simples locataires, ils sont mariés depuis 2 ans, mais plus très jeunes déjà. Sa mère, qui est dans sa 33e année, descend en droite ligne d'une illustre famille lorraine de l'Ancien Régime. Elle s'appelait, avant son mariage, Henriette Joséphine de Fiquelmont. Relisons ce que dit de cette famille Charles de Rouvre, le petit-neveu de Clotilde, premier et principal biographe. Les Fiquelmont étaient une de ces 4 familles de Lorraine que l'on appelait les grands chevaux et qui constituaient en quelque sorte les 4 piliers du trône ducal. Alliés aux premières maisons d'Europe, ils cousinaient et s'en glorifiaient avec les Borromées, d'où sortit l'illustre archevêque de Milan, Saint Charles Borromée, et ils se flattaient aussi d'être du même sang que les comtes de la Marque, qui ne fut point un saint, que l'histoire a surnommé le sanglier des Ardennes, dont Walter Scott a chanté la mort dans Liège. C'est un peu romancé, mais en fait Charles de Rouvre, c'est un très bon biographe, puisque c'était le petit-fils du frère de Clotilde. D'autant plus que Charles de Rouvre, il a été élevé par son grand-père. Alors, celle qui allait s'appeler à partir de 1813 et jusqu'au décret du 8 avril 1830, Henriette Joséphine Marie, la famille, ils avaient sollicité un décret sous Louis-Philippe, où ils ont repris le patronyme Marie de Fiquelmont. Enfin, c'est un peu curieux parce que quand ils signent, ils continuent de signer Marie. La tombe existe, la tombe familiale existe toujours au Père Lachaise, et c'est Marie de Fiquelmont. Donc, Henriette, la mère de Clotilde, elle avait fait un mariage d'amour, selon toute vraisemblance. Elle avait rencontré peut-être en Allemagne son futur époux, lequel appartenait à un tout autre milieu. Donc ça, c'est intéressant aussi. Mais ce dernier, doté d'un physique avantageux, aimait plaire aux belles personnes, pas trop inabordables et sensibles à ses charmes. Je dis ça parce qu'il était un peu coureur de jupons, on l'a su plus tard, mais enfin passons. Ce futur père de Clotilde, Joseph Simon Marie, était né en 1775, dans une modeste famille de paysans du Loiret. Le roman familial fait de lui un engagé dans les armées de la République à 17 ans, tandis que sa future, dont le père avait immigré, se faisait dorloter chez sa grand-mère. Joseph Marie aurait accompli quelques 23 années de guerre, de 1792 à 1815. Il aurait été blessé à la jambe, au siège de Gênes, revenu avec deux doigts gelés à la bataille de la Bérézina. C'est un moment dans des lettres de Clotilde d'enfant qui parle des doigts de papa, en disant que ce que papa n'a pas trop mal à ses doigts, ça ne gêne pas trop. Cependant, nous précise Charles de Rouvre, il ne retire de la bagarre que la maigre grade de capitaine. Il n'avait pas été dans les grands combats, enfin, comme ça, il a sauvé sa vie, hein, comme vous direz. Que le grade de capitaine et que ce ruban rouge qui alors signifiait croix de guerre. Le ruban rouge, c'est la Légion d'honneur. Ça, c'est ce que dit Charles de Rouvre. Hein. Cette Légion d'honneur aura quand même l'importance dans la vie de Clotilde. On va le voir tout de suite. Alors, quelles sont les ressources du ménage lorsque Clotilde naît? Jusqu'alors, le capitaine Marie ne disposait que de sa demi-solde d'officier à la retraite, soit 1200 francs annuels. Son épouse, qui venait donc d'une famille dispersée par la tourmente, révolutionnaire, mais appauvrie, donc, elle avait deux frères, elle avait sept sœurs, on va voir, il y a un frère important quand même, on va voir, ne disposait de son côté que d'une rente de 600 francs annuels. Rente que Charles de Rouvre attribue à la générosité du premier consul. Bon, ça, après, il faut creuser pour quelles raisons, il y a des tas de choses encore à chercher. Ça faisait 5 francs par jour, ce qui permettait de vivre légèrement au-dessus de la pauvreté, mais très loin de l'aisance, hein, 5 francs par jour, hein, pour ce genre de famille. Il faut insister sur ce point, Madame Henriette, qui avait beaucoup d'esprit, qui avait reçu une bonne éducation, elle savait bien écrire, elle le montrera, elle savait dessiner, elle savait jouer du piano, n'en était pas moins, en épousant quelqu'un issu d'un milieu très opposé au sien, un bonapartiste, même un ancien jacobin, on va dire, dans un certain état de déclassement. En effet, que de dissimulitudes entre les deux amoureux. Joseph n'a certainement guère eu le temps d'approfondir les études scolaires ou livresques. La vie de la soldatesque en campagne, triviale et bouffonne, particulièrement cruelle en ces temps, aura sans doute été sa seule et grande école de vie. Ni ses goûts, ni ses moyens matériels, ni même ses ambitions ne pouvaient le pousser spontanément à l'audace de prétendre attacher à son existence une demoiselle de Fiquelmont, certes peu fortunée désormais, mais issue d'une famille aussi brillante. Seul l'aiguillon de l'amour, la redoutable flèche de Cupidon, pouvait des deux côtés fendre sans coup férir les solides cuirasses du préjugé et de la bienséance. Clotilde, petite, a idéalisé son cher papa. Mais en grandissant, c'est sa maman qui deviendra véritablement son modèle de vie. C'est elle qu'elle voudra imiter en cherchant à écrire, au prix d'une rivalité progressive et douloureuse, d'un malentendu pénible, lié essentiellement au besoin très fort d'indépendance, d'une fille fragile face à une mère forte, habituée à tout ressentir. On va voir que la mère, elle a choisi son destin d'une certaine façon et assumé. Elle écrit, la mère, pas beaucoup, mais elle écrit des essais à caractère social, c'est intéressant, dont d'ailleurs l'évolution se fait aussi. Puis elle a écrit aussi des nouvelles, mais qui ont été publiées à titre posthume. Donc je ne suis pas toujours sûr que ce soit bien d'elle, mais enfin bon. Alors, Madame Marie fut, à n'en pas douter, une femme énergique qui se démena pour arranger la situation matérielle de sa famille. De démarche en démarche, elle obtient deux choses importantes. D'une part, de se rendre éligible à l'administration prévue par la loi du 23 mars 1815, dite la loi du milliard aux immigrés. Alors, le château de paroisse, son héritage ayant été acquis comme bien national, elle avait droit de bénéficier donc de cette loi qui prévoyait de répartir pendant 5 ans entre 50 000 familles nobles qu'on considérait comme spoliées, etc., à peu près 1 milliard de francs. Alors, l'époque était propice au retour en faveur des illustres familles et elle se débrouilla pour saisir cette aubaine. Elle parvint à disposer peu à peu d'un petit capital de 20 000 francs, dont elle fit en sorte de n'utiliser que les intérêts, gardant le principal pour les coups durs. Et ils ont serré la ceinture quand même tout le temps. Elle obtient d'autre part, après moult démarches, une sinécure pour son époux. Alors, il faut dire que la famille s'agrandissait assez vite. Hein. Un petit Maximilien vit le jour en 1819, donc 4 ans après Clotilde. L'année d'après, un petit Éléonore, Léon. On s'en est arrêté là quand même. Charles de Rouvre ne la montre, sollicitant les appuis donc des vieilles familles, et donc elle va obtenir pour son mari une charge de percepteur. C'est en 1824 que le ménage s'installe dans la perception de Sainte-Geneviève d'abord, c'est dans l'Oise, et puis bouge après Neuilly-Antelle, et enfin à Méru, petite ville de l'Oise, où le capitaine Marie finit par disposer en 1828, Clotilde a 13 ans, avec le logement de 1800 francs annuels d'indemnité, pour faire le percepteur, enfin c'est pas lui qui faisait le travail, il y avait des commis, tout ça. Et puis il était aussi donc logé. Alors c'était pas le Pérou donc, mais C'était tout de même dire un semi-embourgeoisement. Alors, la nouvelle position de la famille supposait que l'on songe un peu mieux au statut social des enfants, et à commencer par celui de l'aîné. Clotilde marche sur ses 10 ans lorsqu'elle est baptisée, le 7 octobre 1824 à Sainte-Geneviève, petite paroisse du diocèse de Beauvais. Alors, il faut tordre le cou tout de suite à une légende fausse concernant les idées religieuses de Clotilde de Vaux et de la famille Marie. Clotilde de Vaux n'a nullement cherché à ramener Auguste Comte au catholicisme, comme nous pouvons le lire ça et là. Pas du tout. Elle a été baptisée très tard pour des raisons de convenance sociale, car sa mère avait une abbesse, une sœur abbesse, et un puissant frère aîné, Charles-Louis de Ficquelmont, fervent catholique et qui était resté fidèle à l'empereur d'Autriche, François Ier. Vous arrêtez un tout petit peu sur lui parce que ce légendaire oncle d'Autriche fera une brillante carrière diplomatique. Avant de succéder en 1838 au prince de Metternich comme ministre des Affaires étrangères et de devenir son successeur comme chancelier le 19 mai 1849. Jean Metternich avait fui les événements de 1848 en Autriche. Henriette, qui avait du caractère, nous l'avons vu, elle partageait plutôt les idées des Lumières. Elle a sans doute transmis à sa fille son rousseauisme, son amour de la nature, son souci des humbles et des malheureux, des laissés pour compte. Elle a laissé des essais sociaux qui témoignent en ce sens. Quant à Joseph, c'était plutôt un voltairien, bon teint, mais qui n'aurait pas lu Voltaire. C'est pas un grand intellectuel, vous avez compris. C'est en juin 1829, après une retraite d'une semaine au couvent de Flavigny, auprès de sa tante abbesse, que Clotilde fit sa première communion. Elle a 14 ans, et ce sont ses seuls vrais moments attestés de ferveur religieuse. C'est à ce séjour enchanteur qu'elle fit en Lorraine à partir des débuts de l'année 1829 pour préparer sa première communion, qu'elle repensera avec nostalgie plus tard. C'est en effet à la chapelle du couvent de Flavigny qu'elle attachera ses souvenirs de confiante foi, d'où la célèbre phrase, mal interprétée, inscrite par Clotilde en 1837 dans le livre « La journée du chrétien », qui fait partie des pièces conservées à la maison d'Auguste Comte. « Souvenirs précieux de ma jeunesse, compagnons et guides des heures saintes qui ont sonné pour moi, rappelle toujours à mon cœur les cérémonies grandes et suaves de la chapelle du couvent. » L'on y devine, dans un moment de déprime, le souvenir ému, la sensibilité vive de la jeune fille qu'elle fut, son désir d'innocence et de communion. L'on comprend mieux cette phrase si l'on s'arrête sur la mention soulignée dès la première page, en réponse au titre « La journée du chrétien »,« Telle doit être la mienne » et « Pourtant ». Clotilde ne parvenait à 22 ans ni à croire ni à pratiquer. D'autres indices le montreront à d'autres moments de son existence. Elle ne s'en réjouissait pas pour autant, mais elle avait de bonnes raisons pour cultiver avec son scepticisme son incrédulité. Des raisons qu'elle laisse parfois deviner dans ses aphorismes ou ses réalisations littéraires. Alors là, sur la mise au diapason, on va dire catholique de Clotilde, il y avait une toute autre raison. Et ça arrangeait beaucoup le papa. En tout cas, la légende familiale dit qu'il était près de ses sous. Eh bien, Clotilde avait été admise à la demoiselle de la Légion d'honneur. C'était gratuit, ça faisait une bouche de moins à nourrir. Alors la pauvre, elle est allée donc comme pensionnaire à l'école des demoiselles de la Légion d'honneur, rue Barbette à Paris. C'était une succursale. Il fallait être en règle avec la religion. Alors si elle n'avait pas été baptisée pour faire sa première communion comme il faut, elle ne pouvait pas aller à la Légion d'honneur. Quitter ses parents, ses camarades d'enfance et une riante nature pour se retrouver enfermée dans la capitale, cela ne l'enchanta guère. Elle y fera une scolarité peu heureuse, entrecoupée par des problèmes de santé. J'ai dit qu'elle est morte tout à l'heure de tuberculose, elle a eu très tôt. Et interrompue pendant l'épidémie du choléra, en plus, en 1832. Bon, à la limite, elle se réjouit parce qu'elle est contente de retourner auprès de ses parents. Elle espère que son père va la garder les vacances. Puis le père, non, il la renvoie même les vacances. Alors, une scolarité que nous pouvons grosso modo reconstituer ainsi. Entrée en 6e section en septembre 1828 avec un bulletin de fin d'année plutôt sévère, puisque sur 12 élèves, elle obtient dans la plupart des matières les 7e ou 10e places, avec l'observation globale peu élogieuse, assez appliquée, pas assez soumise, conduite pas assez bonne. Pas assez soumise, pas assez bonne. Notons toutefois une 3e place pour la mémoire, ce qui montre bien les potentialités de Clotilde face à une 7e place pour la religion et surtout une 10e place pour les matières les plus décisives, lecture, écriture, calcul, histoire, géographie. Donc elle n'avait pas de bonne base scolaire. Bien, on devine que ça n'a pas été une très bonne scolarité déjà au départ, en quelque sorte. Alors elle cheminait donc, en progressant sans doute, mais selon des indices malheureuses. Là, on a des lettres qui l'attestent. Loin de ses parents, de ses amis d'enfance, de la nature, elle aimait la nature à Méru. Jusqu'en 1833, 1834, je ne sais pas exactement. En tout cas, elle n'y atteindra pas un niveau élevé de connaissance, ça c'est clair, et elle va en souffrir. Elle n'aura pas un bagage intellectuel suffisant pour satisfaire plus tard ses légitimes, on va dire, ambitions intellectuelles. Alors c'est à ce point qu'il faut nous souvenir de l'inégalité de traitement entre les filles et les garçons concernant les études. Les deux frères cadets, Maximilien et Léon furent tour à tour envoyés en internat au lycée d'Orléans. Pour eux, la famille, ils avaient d'ambition. Ils acceptaient des frais notoires. Et ils y firent de brillantes études qui leur permettent tous les deux d'intégrer la précieuse école polytechnique. Ça va donner d'ailleurs toute une lignée, les Marie de Fiquelmont, de polytechniciens. Clotilde dut, comme beaucoup de jeunes femmes de ce temps, se contenter d'un mariage. Le prétendant fut rapidement trouvé. C'était un jeune homme placé à Méru comme auxiliaire auprès du père de Clotilde. Il s'appelait Amédée de Vaux et obtient la main de la belle enfant de 20 ans le 28 septembre 1835. Henriette fut réticente à cette union, car en dehors de son nom à particules, peu d'éléments plaidaient en la faveur du futur gendre. Clotilde a pourtant aimé ce jeune homme peu sûr de lui, d'un naturel plutôt doux. Elle avait aussi souhaité trouver rapidement son indépendance de femme mariée. C'était sans compter avec le destin imprévisible et sa cruauté. La famille Marie de Fiquelmont quitta Méru pour Paris. Le capitaine, il abandonnait sa charge au profit de son gendre, de manière à lui assurer des moyens de subsistance. Les jours coulèrent sans accroc, semble-t-il, hormis une fausse couche de Clotilde, dont elle se désolera plus tard, ça aura quand même une importance pour elle, parce qu'elle aurait aussi toujours voulu être mère. Et des soucis de santé récurrents qui conduisirent donc le jeune couple à une cure. On fait une cure en 1838 au Trévor. Elle savait pas qu'elle a tuberculose, c'est ça que je vais le dire. Clotilde, son mari, ses parents, ses docteurs, tout le monde ignorait les causes de ses toux. Tantôt c'était les nerfs qui étaient évoqués, tantôt une faiblesse cardiaque. Comte, qui lui offrit plus tard les services de son propre médecin, qui entreprit de la conseiller, ne lui fera pas davantage de bien qu'il s'en fit à lui-même dans les dernières semaines de son existence, comme nous l'a rappelé à notre dernière soirée de lecture Jean-François Brochten. Un an plus tard, le 15 juin 1839, l'inenvisagé se produisit. Amédée, qui avait secrètement contracté des dettes de jeu à Paris, s'enfuit avec l'argent de la caisse de la perception de Méru, afin d'éviter l'inspecteur des finances annoncé. C'est un terrible choc pour Clotilde. La faillite, la honte, le déshonneur. Elle ne reverra jamais son mari, elle échangera quelques lettres avec lui, refusera de l'accabler complètement, de lui intenter un procès, et n'obtiendra ainsi qu'une séparation de corps de fait, car la loi rétablissant le divorce n'était pas à l'ordre du jour à cette époque. D'ailleurs, dans les écrits de Clotilde, il y a toute une réflexion autour justement du problème du divorce. C'est une catastrophe pour elle, à commencer par une bérésina économique. Elle vendit tout ce qui pouvait avoir de la valeur pour indemniser les habitants de la commune lésée. Bon, elle avait sa fierté, sa famille était fière aussi. Elle fut contrainte à l'âge de 24 ans de vivre seule, sans métier, sans emploi, sans possibilité de se remarier, sans autre soutien que ceux de sa famille. Alors ses parents, ils avaient aménagé à Paris, 24 rue pavée, dans un modeste entresol mal éclairé, d'un vieil hôtel aristocratique tout simplement. Aujourd'hui, c'est l'hôtel Lamoignon, c'est la bibliothèque historique de la ville de Paris. Mais à cette époque, c'était loti, c'était pas en bon état. Des logements pas très commodes pour une population pas très riche en fait. Clotilde opta rapidement de s'installer à Paris, elle n'avait pas beaucoup de choix, il faudrait dire, et de vivre à l'ombre de ses parents. Et elle trouvera plus tard donc un modeste appartement, un petit trois pièces au quatrième étage mansardé dans un bel immeuble situé au 7 rue Payenne. On verra tout à l'heure, cet immeuble est à côté du 5 rue Payenne qui est la chapelle de l'humanité. Mais il y a eu une petite erreur lorsque les Brésiliens ont acquis l'immeuble. Mais en fait, elle a vécu au 7 rue Payenne. À l'intérieur, l'immeuble était beau, mais elle, au quatrième étage mansardé, c'était pratiquement les chambres de bonne, enfin, en tout cas pour des locataires. Clotilde n'avait pas de ressources propres, hormis une bien maigre et très inannuel, en fait, qu'Henriette avait obtenu de son puissant frère, Charles. Alors, le fameux oncle d'Autriche, il va passer dorénavant, ce qu'écrit Charles de Rouve, comme un bienfaiteur dans le roman familial. C'est tout de même oublié qu'il dépensa tout autrement pour sa célèbre fille chérie, la future princesse Elisabeth Alexandrine von Clary und Haldringen. Alors c'était vraiment la célébrité de l'époque, grand mariage, enfin bon, vraiment, vous voyez, deux pans de la famille, un pan qui a magnifiquement réussi, il faut le dire, et qui est célèbre en Autriche, et un pan qui vit avec des problèmes à Paris. Alors cette étrenne, en fait, ne s'élevait qu'à 800 francs. Madame Marie avait obtenu l'étrenne, elle donnait 300 francs à Clotilde pour vivre. Elle lui payait son loyer quand même, qui, autant que j'ai pu comprendre, était de 200 francs. Et elle laissait 300 francs pour Maximilien, parce qu'après Maximilien va venir vivre avec eux. Et c'est elle qui faisait la nourriture. Elle disait, bon, bah, c'est pour la pension de Clotilde, parce qu'on va voir que Clotilde, elle allait manger chez ses parents, chez sa mère, en fait, parce que le père est parti, en fait. En dehors du loyer, il faut qu'elle vive avec 300 francs par an, 25 francs par mois. Ça vous fait moins d'un franc par jour. Alors elle appelait ça son quasi-veuvage, parce qu'à la fin de sa vie, elle va manquer d'argent. Elle sera contrainte à plusieurs reprises d'en emprunter Auguste Comte, avec beaucoup de gêne. Elle va lui promettre chaque fois des remboursements, il va refuser évidemment, puisqu'il l'aime. Il lui fallait en fait de l'argent pour acheter du bois, pour se chauffer l'hiver 1845, on verra, c'est la grande année où elle a connu Auguste Comte, et pour pouvoir régler ses factures de médecin hein, et ses remèdes. Alors, une seule espérance se dessinait à l'horizon de sa vie, percer comme écrivain, se faire un petit nom dans le monde exubérant de la littérature, ça bougeait, il y avait du feuilleton, voilà, et en tirer des subsides honorables, elle espérait. Elle espérait pouvoir gagner sa vie, tout simplement, avec ça. Puis sa mère lui servait d'exemple. Henriette avait déjà publié, je vous l'ai dit, à compte d'auteur, quelques essais. Alors, l'aîné des garçons, Maximilien, Max pour les intimes, qui après donc ses études polytechniques et un court séjour à l'école d'application de Metz, où il démissionna, au grand dam de son père, prépare quelqu'un, il fait polytechnique, on dépense de l'argent, il va faire un grand soldat, et puis voilà, il veut plus. Non, parce qu'en fait, c'était quelqu'un de très intéressant, son frère, Maximilien, mais je dirais juste 30 secondes. C'était un esprit désintéressé qui a passé sa vie à chercher, mais il avait aussi des problèmes pour gagner de l'argent. Quelque part, il avait des points communs avec Comte. Pas les mêmes idées, évidemment, pas du tout. Au niveau de la démarche, on va dire. Et il fréquentait dès 1841 Auguste Comte, qui avait été son ancien examinateur d'entrée à l'école polytechnique. Il lui donnait des conseils. Comte aimait beaucoup donner des conseils, on avait vu ça à ses anciens élèves, enfin, ou aux gens qu'il avait connus, etc. Et d'ailleurs, il le freinait, parce que Max, il voulait vraiment s'élancer dans la recherche désintéressée. Et Comte disait, oui, mais il faut gagner sa vie quand même. Il en savait très bien, lui, quelque chose de ça. Et puis, surtout, il était aussi très lié au milieu républicain. Donc, il va lui apporter une certaine aide. À Clotilde, on va voir tout de suite. Et puis, il aura un grand rôle dans son destin, puisque c'est lui qui va faire rencontrer Comte et Clotilde Vaux. On va voir tout de suite comment. Max fut un esprit brillant, méconnu, un cœur fier et désintéressé, un passionné de recherche mathématique, un peu buté, distant parfois, mais aussi un très bon époux, un père attentif et un ardent républicain socialisant. Il a été même de plus en plus socialisant à la fin de sa vie. Max l'a mis rapidement en rapport avec le brillant et bouillonnant publiciste Armand Marat, qui était touché par l'infortune de sa sœur, puis soucieux donc de rendre service au frère, un petit peu sensible au charme de la jeune femme. Bon, après, ça va entraîner la jalousie de Comte, mais tout à fait exagéré. En fait, il y avait simplement, on va dire, la bienveillance de Marat et celle de son épouse, Madame Marat aussi. Elle était précieuse pour Clotilde. Et ça a été un problème plus tard, parce que Comte, il a fait en sorte, justement, presque d'empêcher, en quelque sorte, qu'il se développe une amitié entre Marat et Madame Marat et Clotilde. Elle était précieuse à Clotilde. Elle avait beaucoup de peine à sortir de son isolement, en fait. Alors elle s'est enthousiasmée quand elle a appris que sa petite nouvelle, Lucie, elle a écrit une petite nouvelle, Lucie, à peine 15 pages, mais aurait les faveurs du National. Voilà, parce que journal républicain dont Marat était devenu le directeur. Elle a eu deux publications du National, ça lui a donné un peu d'argent, elle était très contente que ça faisait arriver, elle pensait que... Mais Comte, il n'était pas content de ça, évidemment, enfin, il le cachait. Mais... Il faut tordre le cou à une autre légende qui fait de Clotilde Vaux une amoureuse d'Armand Marat. Certes, notre héroïne a aimé secrètement pendant 2 ans, 1843 à 1845, d'après tout ce qu'on peut savoir, de tous les recoupements. Un jeune homme, elle le dit, faut lire entre les lignes, un homme jeune, on va dire, est marié, dont nous ne connaîtrons sans doute jamais l'identité. Bon, Charles de Rouve, justement, c'est lui qui au début l'avait dit, c'est Marat, puis après il s'est rétracté, il a étudié aussi de son côté, il a dit, c'est pas Marat, certains ont continué à dire, c'est Marat, mais c'est pas Marat, bon, peu importe, j'en suis persuadé que c'est pas Marat. Alors, ce fut un impossible amour, en tout cas, elle a eu un impossible amour, qui lui fit écrire un jour « Mon cœur est comme mutilé, un amour sans espérance tue le corps et l'âme. » C'est important ça. Pourquoi ? Je dis tout de suite parce que quand elle va voir Auguste Comte très amoureux d'elle, elle va en souffrir pour Auguste Comte. Elle va dire « Mais il est en train d'avoir les mêmes problèmes que j'ai eu moi, tant de difficultés à m'en sortir. » Voilà. Mais c'était sans compter sur celui qui allait tomber éperdument amoureux d'elle, qui a légué son nom à la postérité. Parce que c'est vrai, comme dit Charles de Rouve d'ailleurs, il l'a dit, un peu grâce quand même à cette histoire d'amour avec Auguste Comte qu'on se souvient de Clotilde de Vaux, il faut quand même le dire, elle n'a pas suffisamment laissé de traces dans la littérature autrement. Auguste Comte, séparé de sa femme Caroline, on a vu une figure puissante, on l'a évoqué dans d'autres soirées de lecture, la fameuse Caroline, il venait de terminer tout juste son 6e volume de son magistral cours de philosophie positive, 1842, fin de la première partie de son œuvre, si vous voulez. Il se sentait bien seul dans son vaste domicile du 10 rue Monsieur le Prince, malgré la présence réconfortante d'une robuste et vaillante domestique engagée en 1841, donc un an auparavant par Caroline, et qu'il avait gardé à son service Sophie Bliot, c'est important parce qu'il fera de Sophie Bliot sa fille adoptive, et puis son troisième ange, enfin c'est pour ceux qui savent l'histoire, premier ange étant Clotilde, deuxième ange étant sa mère, et troisième ange étant Sophie Bliot. 3 fois par semaine, donc, Auguste Comte se rendait en fin d'après-midi au domicile de Maximilien, donc 24 rue Pavée, il le sollicitait pour des conseils, etc. Ce que Maximilien voulait faire, c'était la recherche mathématique désintéressée, avec comme seule espérance de gagner sa vie en donnant des cours particuliers. C'est ce que Comte faisait, et donc il lui a même refilé des tuyaux, même recommandé, par exemple, pour l'institution de la ville, où il donnait des cours, Comte. Mais avec ça, on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Comte en connaissait tout le prix et tentait de calmer ses ardeurs. Alors, Maximilien, il épousa le 25 janvier 1844 une charmante et douce personne. Là aussi, on connaît sa vie à travers Charles de Rouvre, etc. La grand-mère, donc, de Charles de Rouvre, dont il avait dû attendre les 15 ans, c'est la majorité légale, pour pouvoir l'épouser. L'épouser à 15 ans et quelques jours. Né Philibert Daniel, le 15 janvier 1829, vous pouvez recalculer, originaire du Mâconnais, jeune pianiste en herbe, elle qui fut la grand-mère très aimée de Charles de Rouvre, vécut longtemps. Elle s'éteignit tout doucement en février 1901, après une courageuse vie au cours de laquelle elle mit au monde 4 enfants. La très jeune Félicité, c'était son petit nom parfois, c'est Félicie, débute sa vie de couple avec Maximilien, au domicile des parents, Marie de Figuelmont. Le capitaine ne tarde pas à déguerpir, il préférait désormais vivre comme bon lui semblait avec ses propres fonds. Bon, il aimait un peu les aventures extra-conjugales, bon, enfin, à cette époque, il était moins amoureux d'Henriette, on va dire. La jeune épouse accepta de bon cœur cette tutelle. Vous voyez, elle avait bon caractère. Hein. Henriette, Marie de Figuelmont, fallait suivre. L'installation de ce nouveau ménage fut l'occasion pour Clotilde d'emménager à une trécoute en câblure, donc c'est là, aux 7 rues Payenne. Toujours elle a cherché à prendre son indépendance. Elle aimait beaucoup sa mère, mais la mère étouffait toujours. D'ailleurs, elle l'étouffera de plus en plus jusqu'à la fin de sa vie, et ça lui posera problème. Ainsi, elle pouvait s'isoler et travailler à ses projets littéraires. Elle se contentait d'un petit déjeuner frugal. Hein. Sautait le repas de midi, se rendait vers 6 heures du soir pour souper chez son frère, puis sa mère, et puis Félicité. Henriette Marie, de Figuelmont, confectionnait vaillamment les repas et gérait une bourse des plus serrées. Néanmoins, hormis le prosaïsme de l'arrangement domestique, il y avait des occupations nobles à prévoir et recevoir quelqu'un de déjà remarqué comme Auguste Comte, qui venait en conseiller et ami, faisait partie de ses occupations. Le philosophe, qui partait avant l'heure du dîner, était chaleureusement accueilli, applaudi, flatté. Il aimait beaucoup. Il venait 3 fois par semaine à cette époque. Henriette aimait lui montrer ses essais littéraires, lui demandait son avis, Félicité jouait parfois du piano pour lui. Il avait un petit piano, je ne sais pas comment c'était procuré. Bon, pas un truc forcément très fameux. Maximilien entretenait une précieuse et déférente amitié. Et il y avait cette intrigante Madame Clotilde, qu'il n'avait pas encore eu le bonheur de voir jusqu'à ce dîner d'octobre 1844, où il fut convié et put enfin entrevoir, dans une demi-pénombre, sa délicate splendeur. Oui, demi-pénombre, c'est un entresol, il le dit. Vous voyez, pas fameux là-bas. Il n'était pas très content de ça. Méca Marie Varnet, américaine, hein, qui a rédigé en 1931 à Paris une thèse intitulée « L'influence des femmes sur Auguste Comte », nous décrit ainsi Clotilde de Vaux. Elle était jolie, belle même, jeune et pleine de charme. Elle possédait le don de gaieté, bien qu'elle eût profondément souffert. Ce fut pour Comte le début du coup de foudre, des mouvements gauches, de la gorge serrée, des migraines et des insomnies. C'est pas des blagues, hein, ça, il raconte hein, ces migraines, ces insomnies, enfin dans ses carnets. Il avait très probablement déjà connu ce trouble pour Caroline, mais cela faisait longtemps. Et il savait que son austère apparence de philosophe dissimule mal parfois son vif attrait pour le charme féminin. Si l'on en croit les souvenirs de Félicité, les deux jeunes femmes très complices se moquèrent amplement de lui ce jour-là. Clotilde considérera plus tard cet étrange homme sur un tout autre jour. Comte ne le savait pas encore, mais il se mit à penser à elle et à œuvrer dans le sens du rapprochement. C'est au printemps de l'année suivante qu'il fit les premiers gestes. Repenser à Clotilde, ne plus la revoir, sinon épisodiquement. Imaginez qu'elle arrive un peu plus tôt, par exemple, pour dîner. Évidemment, l'apercevoir, mais c'était trop difficile. Clotilde venait dîner au 24 rue Pavée. La bienséance voulait que Comte prenne congé de ses hôtes avant. Comment s'est-il arrangé pour se mettre à nouveau en contact avec elle, nous ne le savons pas. Les jours de visite du philosophe étaient à cette époque les lundis, mercredis et vendredis. Or, il reporte dans son carnet intime une entrevue le jeudi 24 avril 1845 qu'il appelle l'occasion littéraire. Oui, parce qu'il mettait toujours une légende. Bon. Alors, et une autre, le mardi 29 avril qu'il appelle le libre entretien initial. Avec cette mention haute en couleur, la vue a complété le charme de Louis, li hoci smeraldi. Oui, parce qu'il aimait bien, de temps en temps, il aimait beaucoup l'italien, il aimait d'ailleurs aimé une italienne. Elle avait donc les yeux Émeraude, Clotilde. Et elle ne paraissait pas tout à fait passive dans le rapprochement inopiné. Elle jouait le jeu. Dans quel lieu ont-ils échangé? Clotilde, qui n'avait pas d'argent pour s'acheter des livres, mais beaucoup de temps pour lire, qui avait besoin de lire énormément pour espérer devenir un jour une femme de lettres, et donc vivre de sa plume, devait logiquement fréquenter les cabinets de lecture. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier les cabinets de lecture. Ce que Comte détestait. Il lui a dit plusieurs fois que tu ne mets pas les cabinets de lecture. Sauf à y deviser avec une personne aussi émouvante, ne serait-ce qu'un bref moment. Madame Deveau avait fort bien compris que le philosophe se montrait très bien disposé à son égard et précisément dans un moment où elle avait grandement besoin de conseils, d'aide, d'encouragement. Elle obtiendra tout cela dans peu de temps, mais le plus souvent, pas comme elle aurait aimé, et parfois au prix d'un profond agacement, d'une blessure même. Après, au fur et à mesure, elle a quand même de plus en plus aimé son Auguste, on va dire, de façon, ce qu'elle appelle une amitié amoureuse, on va dire. Je ne le dis pas comme ça, mais ça revient exactement à ça. Pour Comte, il fallait se l'attacher, lui parler, la voir, et la meilleure façon lui parut d'user de l'échange épistolier. Il fallait ne pas trop attirer l'attention aussi de la famille Marie de Fiquelmont. Il lui écrivit donc pour la première fois sous un prétexte littéraire pour accompagner le prêt d'une traduction de Tom Jones. La lettre et l'ouvrage furent portés par Comte lui-même au 24 rue Pavée à l'occasion de sa visite du jour le mercredi 30 avril 1845. Et il savait que Clotilde en prendrait connaissance quelques instants après son départ au moment du dîner. Ça y est, c'était tout bien calculé. Clotilde répondit dès le lendemain de façon quelque peu cérémonieuse, mais qui ne décourageait nullement son admirateur. « Vos bontés me rendent bien heureuse et bien fière, monsieur, et je ne me sens pas la patience d'attendre une meilleure occasion pour vous dire tout le plaisir que m'a fait Tom Jones. Puisque votre supériorité ne vous empêche pas de vous faire tout à tous, je me réjouis de l'espérance de causer avec vous de ce petit chef-d'œuvre et de pouvoir recueillir quelquefois dans mon cœur et mon esprit vos beaux et nobles enseignements. Veuillez agréer, monsieur, avec l'expression de toute ma reconnaissance, celle de ma très grande considération. Deveau, née Marie. » Il faut deviner la joie d'Auguste Comte recevant cette précieuse missive. Clotilde, usant d'une tournure fort usitée à l'époque, se faire tout à tous, n'en fait pas moins du philosophe, une sorte de pendant de l'apôtre Paul. C'est à lui qu'est attribuée cette fameuse sentence tirée de la première épître aux Corinthiens. Elle n'aura sans doute pas songé un seul instant un rapprochement aussi incongru. Pourtant, Comte y songera explicitement plus tard. Ça, on avait vu, hein, avec son catholicisme, il se considéra à un certain moment comme le nouveau saint Paul et aussi le nouveau Aristote d'ailleurs. Ainsi commence la correspondance sacrée, dixit Auguste Comte, qui s'étalera jusqu'au vendredi 20 mars 1846. Un peu moins d'une année, mais quelle année ? L'année sans pareille. Écrira-t-il pour la postérité. 183 lettres échangées, 86 de la main de Clotilde Deveau, 97 de celle d'Auguste Comte. Mais quelles lettres qui sont entreposées donc à la BNF aujourd'hui, mais on a les enveloppes dans leur écrin, qui est une belle boîte à gants qu'avait offert Auguste Comte à Clotilde Deveau. Des lettres qui nous donnent avec force détails parfois beaucoup à voir et à sentir, qui reflètent profondément la personnalité de chacun des protagonistes, qui nous montrent bien, dans une époque révolue, la complicité mais aussi l'affrontement entre deux êtres d'exception. Un homme passionnément amoureux qu'Annie Petit et qui nous avait fait une conférence, hein, et Bernadette Bensaud ont qualifié d'Auguste phallocrate, et une femme tendre et sensible, portée vers l'amitié la plus sûre, que Mary Pickering, qui est la grande biographe américaine, donc, enfin, mais aussi française, si on veut, d'Auguste Comte, désigne comme une femme en quête d'identité qui aurait décidé de tenter conquérir son indépendance en écrivant. Il faut lire et relire ces lettres, cette mine d'informations pour le pur plaisir littéraire et la somptueuse joute qui s'y révèle. Alors nous avons entrepris avec David Labor, c'est notre responsable de la maison musée Auguste Comte, qui nous fait un partenariat avec la Bibliothèque des Amis de l'Instruction pour ce cycle. Alors on avait entrepris, bon, ça fait 2 ans que moi je pense à ce 200e anniversaire de Clotilde Deveau, une transcription des lettres de Clotilde Deveau écrites aux divers membres de sa famille dans sa jeunesse. Hein, si c'est pas, le corpus n'est pas très important, mais c'est dur parfois à déchiffrer. Le travail est en cours, mais ce qui ressort déjà avec netteté, c'est que Clotilde est très inégale sur le plan littéraire et souvent maladroite. Or, il n'en est jamais ainsi dans les lettres adressées à Auguste Comte, ce qui montre le prix attaché à cette correspondance. Clotilde veut certainement prouver au penseur reconnu qu'incarne à ses yeux le philosophe qu'elle est digne de s'intégrer à la corporation des femmes de lettres. Elle veut briller à ses yeux, pas seulement pour ses seules qualités physiques. Elle s'attachera souvent à faire mouche, à lui tenir adroitement tête, de telle façon qu'il plie lorsqu'il exagère ou lorsqu'il commence à devenir odieux. Elle usa aussi de tout son tact pour éviter de le vexer. Pour ne pas te raconter tous les épisodes de cette étonnante relation, cette correspondance, quelques faits saillants. Alors, Auguste Comte ne fait encore parvenir que deux lettres. Nous sommes dans la fin de l'après-midi du mardi 13 mai 1845, au 25 rue Pavée. Là, il va y avoir un événement important, que d'ailleurs Maximilien va regretter, puisqu'après il s'est brouillé avec Comte. Maximilien annonce son intention de se rendre chez Auguste Comte pour obtenir des renseignements urgents. Clotilde, imprévisible, espiègle, curieuse, lui demande s'il ne voit pas d'inconvénient pour l'accompagner dans une petite marche printanière. 13 mai 1845. Il faut imaginer la surprise du philosophe devant une telle irruption à son domicile. L'apparition d'une Clotilde de Vaux qui ne s'était nullement annoncée. Vous pouvez imaginer Sophie Billot, etc., qui ouvre la porte, etc. Bon, c'est très cinématographique tout ça, parce qu'on a beaucoup de détails. Il fut très maladroit ce soir-là. Très gêné même, il s'en excusera dans une lettre le lendemain, mais terriblement touché et flatté. La preuve, dans ses notes intimes, il écrit pour le 13 mai 1845 la mention « Sa première visite » pour le 14 mai, le doux début d'une longue insomnie, enfin une insomnie agréable. Et pour le 15 mai, « Mon précieux confident », en désignant la chaise-fauteuil où la gracieuse femme avait reposé son séant. Cette chaise a été pieusement conservée, telle qu'elle, au musée Auguste Comte, jamais restaurée, vous verrez. Elle est considérée par Comte comme le premier autel de la nouvelle religion universelle ou religion de l'humanité. La présence de Clotilde de Vaux au 10 rue Monsieur le Prince, qui a été renouvelée en de rares occasions, en tout cas pas aussi souvent que Comte aurait souhaité, et pas d'ailleurs les jours qu'il aurait souhaité parfois, est attestée devant les générations futures par cette relique. Les temples de l'humanité, en particulier les Brésiliens, possédaient tous une réplique de cette chaise-fauteuil. Ces visites de Clotilde furent la raison principale aux yeux d'Auguste Comte de la sacralisation de son propre domicile. Nous devons certes la conservation de la maison d'Auguste Comte à de fidèles disciples positivistes, à des personnalités qui ont œuvré dans ce sens comme le brésilien Paolo Carneiro. Nous la devons aussi indirectement, mais en tout premier lieu, à l'égérie du philosophe elle-même. Dorénavant, le philosophe aura chaque jour tout le loisir de contempler ce meuble sacralisé par lui. Il s'agenouillera fréquemment devant pour relire en pleurant les missives de sa grande amie. Oui, c'était un romantique aussi, Comte, mais il n'a jamais voulu assumer son romantisme. Après la disparition de sa muse, il l'invoquera tendrement dans ses prières quotidiennes, jusqu'à parvenir parfois à des visions de sa figure transfigurée. Priant et méditant devant cet autel, il finira par désigner Clotilde de Vaux comme la meilleure personnification de l'humanité, c'est-à-dire du grand être, passé, présent et à venir. On le verra tout à l'heure projeté sur cette œuvre en céramique, réplique fidèle de la peinture de l'artiste brésilien Eduardo de Sá, qu'on trouve aux 5 rues païennes, chapelle d'humanité, juste au-dessus de l'autel. C'est une représentation canonique pour les positivistes brésiliens de Clotilde, l'humanité, avec un enfant, entre nous soit dit qu'elle n'a jamais eu, mais qu'elle aurait peut-être toujours voulu avoir d'ailleurs, tenant l'avenir dans ses bras. On verra ça tout à l'heure, et je verrai la façade de la chapelle, je vous le dis tout de suite, dans la niche alvéolée, au-dessus du buste d'Auguste Comte, il y avait autrefois une fresque fidèle à cette représentation. Un micro-événement a lieu au tout début de leur relation, il a retenu toute l'attention du philosophe et même au-delà. Cela se passe au 24 rue Pavée, le vendredi 16 mai 1845. Auguste Comte ramène chez elle mesdames Henriette et Félicité, auxquelles il avait très probablement offert d'assister avec lui à une représentation au théâtre italien Salvantadour. On sait très bien, il était abonné, il adorait ça, et il voulait plaire aussi au mari de Fiquelmont. Il les a souvent invités d'ailleurs, mais à cette époque il n'avait pas encore invité Clotilde au théâtre italien. Il y retrouve inopinément, accidentellement dira-t-il, Clotilde. Il y a des accidents qui sont heureux, bien sûr. Accidentellement, dira-t-il Clotilde, et le reste de la famille. La conversation s'engage. Auguste s'exalte en présence de Clotilde et trouve subitement son eureka. Écoutons-le nous raconter cette immémoriable et si simple découverte. Le positivisme religieux commença réellement dans notre précieuse entrevue initiale du vendredi 16 mai 1845, quand mon cœur proclama inopinément devant ta famille émerveillée, toi-même bien sûr émerveillée, la sentence caractéristique « On ne peut pas toujours penser, mais on peut toujours aimer » qui complétait, je crois qu'après il a dit « On peut toujours agir aussi » devint la devise spéciale de notre grande composition, c'est-à-dire de la religion positiviste, du culte de l'humanité. On ne peut pas toujours penser, mais on peut toujours aimer. C'est ce fameux basculement, vous savez, entre la première partie de son œuvre très rationnelle, la deuxième partie de son œuvre où il introduit ce qu'il appelle la prépondérance du cœur sur la raison. Le lendemain, Clotilde avait droit à une somptueuse déclaration d'amour. D'ailleurs, on lui dit qu'il a encore toute la forme physique. Il fait déjà des... On va dire qu'il lui dit qu'il est prêt à coucher quelque part. Bon, pour parler en termes modernes. Elle attendit deux autres lettres et quatre jours pour lui envoyer sa réponse. Une étonnante et subtile mercuriale. Là, je peux vous la lire, c'est moins long. C'est quand même Clotilde qui écrit. « J'ai trop souffert pour ne pas être moins sincère, monsieur. Et si je n'ai pas répondu à votre lettre de samedi, c'est parce qu'elle m'a causé des sentiments pénibles et que je n'aurais pas su vous cacher. En acceptant votre amitié et votre intérêt, je croyais, je vous l'avoue, contribuer à votre bonheur et au mien. Il m'a été douloureux d'avoir à craindre le contraire. Si je ne m'étais pas fait depuis longtemps une habitude de cacher mon cœur, je vous aurais inspiré encore plus de pitié que de tendresse, j'en suis sûr. Il y a un an que je me demande chaque soir si j'aurai la force de vivre le lendemain. Ce n'est pas avec de telles pensées qu'on peut faire des coups de tête. Vous ne me connaissez pas, et la bonté de votre cœur vous a porté, je le sens, exalté en vous l'intérêt qu'inspire mon malheur. Mais je vous demande de faire un moment usage de vos belles facultés relativement à ce qui me concerne, et vous ne serez pas tenté de m'adresser un seul reproche. Épargnez-moi les émotions, comme je désire vous les éviter. Je ne sens pas moins vivement que vous. Adieu, monsieur comte. Croyez à ma sincère affection, comme à mon estime, et recevez-en l'offre pour toujours de vos némaries. » Ça termine quand même pas mal, l'offre pour toujours. Mais vous avez vu la mercuriale. Avec cette phrase extraordinaire, il y a un an que je me demande chaque jour, chaque soir, si j'aurai la force de vivre le lendemain. Il montre des difficultés auxquelles elle se coltinait, comme on dit. Tout Clotilde dans cette mercuriale. Un adieu qu'elle dira vraiment à la vie et à son grand ami dans moins d'un an. Une offre pour toujours qu'elle lui fait sincèrement, malgré sa colère. L'offre de son affection comme de son estime. Cette frêle femme qui avouera parfois sans embâge son spleen, elle l'a dit dans certaines lettres, a hautement conscience de sa propre valeur humaine et morale. En examinant sa vie autant que possible, nous n'avons jamais trouvé une quelconque attitude ou un quelconque propos qui permettrait, comme elle le dit si bien, à celui qu'elle appellera bientôt mon cher philosophe, de lui adresser un seul reproche. Bon, un petit point de vue personnel. S'il fallait maintenant nous attarder encore sur un seul grand moment qui scande la relation des deux amis, ce serait sur cette date reportée par Auguste Comte lui-même qui entoure les deux dates de naissance et de mort de Clotilde de Vaux dans un petit médaillon en or que le philosophe lui avait offert et qu'il récupéra à son décès, glissant dedans une précieuse mèche de ses cheveux, de si l'époque romantique on récupère des mèches de cheveux. D'ailleurs, il fait partie de son testament, il a été enterré avec le don du cœur, une mèche de cheveux qui lui a offert Clotilde sur la poitrine. Alors, que signifie donc cette mystérieuse date? Jeudi 28 août 1845, tout simplement, le jour de l'union spirituelle et éternelle entre Clotilde de Vaux et Auguste Comte. C'est une blague, me direz-vous? Eh bien oui et non. C'est essentiellement une question de synthèse subjective. C'est le titre du dernier ouvrage d'Auguste Comte. C'est une question de synthèse subjective, comme pourrait répondre par anticipation celui qui amorce déjà son virage subjectiviste. Pour Clotilde et sa famille, il n'y a ce jour qu'une belle raison de faire la fête et de se réjouir, puisqu'il s'agit de porter sur les fonts baptismaux, bon, on a vu, ils n'étaient pas très catholiques, mais ils suivaient beaucoup, et encore aujourd'hui, la tradition, le petit Léon, le fils de Félicité et de Maximilien, qui est né le mercredi 25 juin entre 11h et 12h. Il y a aussi ce baiser échangé à la fin de la cérémonie entre le parrain Auguste et la marraine Clotilde. Montre l'amitié d'ailleurs que portait Maximilien à Auguste Comte, puisqu'il a demandé le parrain de son fils. Qui sera tout de même le début, ce baiser, hein, de la suspicion pour les maris de Ficalmont. Comme s'il prenait conscience tout d'un coup que l'empressement du philosophe avait quelque chose à voir avec une incongrue prétention amoureuse. Clotilde sera peinée de cet ombrage, de cette suspicion. Elle reçut le baiser de Comte dans sa lumineuse bonté. N'avait-il pas été si gentil avec elle tous ces derniers jours? N'y a-t-il pas acheté une belle paire de gants blancs pour la cérémonie? Il a même prévu une paire de gants noirs, mais elle refusait les gants. Enfin, Clotilde refusait de trop de cadeaux, en fait. Elle ne voulait pas. Mais là, pour la cérémonie, elle avait accepté. Elle savait de cet homme son indéfectible dévouement et lui portait en retour une vraie amitié reconnaissante. Elle lui écrivit 4 jours après le baptême, le 1er septembre 1845, cette admirable lettre. « Mon très cher philosophe, nous allons passer la journée d'aujourd'hui à Garges, chez des amis à Garges. Nous ne serons peut-être pas revenus pour 7 heures. Ne risquez donc pas de faire une course inutile ce soir. Je voudrais avoir un cœur aussi sain que le vôtre à mettre dans notre association de sentiments. Soyez sûr toutefois que je sens bien vivement vos bontés et que je vous en tiens tout le compte possible. J'aurai à causer avec vous. Mais je veux toujours vous dire une chose essentielle pour nous deux, c'est que ma famille s'afflige de tout témoignage trop vif d'intérêt qui me sont donnés. Chaque sentiment a son égoïsme. » Ah oui, alors là, on voit beaucoup apparaître des aphorismes. Je parle beaucoup par aphorisme. Vous verrez ce que je dis tout à l'heure dans ma conclusion. « Chaque sentiment a son égoïsme. Les plus purs n'en sont pas à l'abri. Il faut les ménager et prendre l'humanité telle qu'elle est. Ne cherchez pas à modifier cette disposition chez les miens. Ne faites ni ouverture ni insinuation à ce sujet et permettez-moi seulement de vous guider. Cela m'importe pour mon repos. Nous nous verrons mercredi et puis je vous dirai, ou je vous écrirai après, n'ayez aucune inquiétude sur ce que je vous dis. On ne m'a fait ni reproche ni remontrance, mais je connais le faible et j'y ai égard, plus pour les autres que pour moi. Adieu, mon digne ami. Mon très digne ami. Comptez sur moi et ne vous faites ni chagrin ni souffrance à mon sujet. Vous pouvez croire en ma sincérité et c'est déjà une grande douceur dans la vie. Je vous tends la main tendrement. » Clotilde de Vaux. Auguste Comte s'empressa de faire porter le lendemain une lettre inquiète qu'il termine ainsi, là, juste à la fin de la lettre. « En général, ma Clotilde, comptant désormais sur votre sincère affection, je suis décidé à me laisser docilement guider par vous dans des relations que vous seul pouvez bien gouverner. » C'est un peu avancé parce que la suite montrera, bon, il se laisse pas si facilement gouverner que ça. « Quoi que vous fassiez ainsi de moi, vous n'y pourrez jamais trouver qu'un homme destiné maintenant à adorer toujours, sous une forme quelconque, sa digne épouse spirituelle. Adieu, cher ami, à demain, Auguste Comte. » Il ne va pas demander son avis. Il a désigné sa digne épouse spirituelle et ça restera comme ça jusqu'à la fin. Voilà. Clotilde laissait aussi dire certaines choses sans... Après tout, c'était une expression, si on veut, mais bon. Pour Comte, c'était plus qu'une expression. Et adorer, c'est très fort parce que c'est exactement... Il adorait déjà avant, mais là, il était vraiment en état d'adoration. Alors, nous ne pensons pas qu'il convienne de remettre en cause la sincérité du philosophe, de faire de lui un manipulateur ou un calculateur. Il accuse le coup et résiste certes devant chaque obstacle tout en disant sa vérité, en la disant crûment parfois. Il adore et ne cessera d'adorer cette femme qui lui tend la main et se dérobe pourtant. Il la considéra à partir du baptême de son filleul comme sa seule véritable épouse. Clotilde n'avait pas d'autre solution pour conserver cette précieuse amitié que de le laisser divaguer, tout en tentant de le ramener, si nécessaire, à une réalité partagée. Parfois, elle fut contrainte d'user de l'algarade. Parfois, elle saisit l'opportunité du calme pour lui dire son affection. Ainsi, cette 26e lettre de Clotilde du samedi 27 septembre 1845, qui commence par « J'ai à vous remercier de bien des choses, mon digne ami, et en particulier toujours de votre affectueux attachement. » Et qui se termine par « Adieu, mon très cher ami, portez-vous bien et comptez sur mes sympathies, comme sur mon affection, Clotilde Vaux, toujours, vous voyez, sympathie, affection, comté. 60 lettres plus tard, nous en sommes à sa 86e et dernière missive. C'est la dernière lettre écrite par Clotilde Vaux, le dimanche 8 mars 1846. Elle est déjà bien malade, vous allez voir. Elle vit au milieu de souffrances lancinantes des dernières semaines de sa courte et difficultueuse existence. Elle débute d'ailleurs cette missive par « Mon cher ami, voici le reste des forces dont je comptais vous donner la meilleure part. » Très rapidement, elle cesse de parler de sa santé, en fait, une phrase tout de suite, une phrase après. Après avoir à peine évoqué ses tourments, elle va vraiment consacrer donc le reste de ses forces à son ami, pour s'inquiéter de son ami, comme une mère protectrice à l'égard de son enfant turbulent, lui léguant une sorte de testament. Considérez que c'est un peu le testament qu'elle lègue à Auguste Comte. « Je voulais depuis longtemps vous parler de vous, et hier, j'espérais en avoir la force. » Il s'était vu hier, mais il n'avait pas la force, il était trop malade. « Mais c'est une chose arrêtée, malgré toute la tendresse qui me pousse vers vous. » Tendresse, hein. « Votre exaltation me contraint à revenir à la plume. Cher ami, votre attachement me rend bien heureuse, et souvent bien penseuse. Je me demande si quelque jour, vous ne me demanderez pas compte de ces distractions violentes jetées au milieu de votre vie publique. D'un lien qui devait être tout de douceur, vous faites une sorte d'astringent pimenté qui dissipe votre temps, vos pensées, et qui ne réagit que sur moi. Vous vous trompez quand vous dites que l'amitié n'aime pas. Je n'ai jamais osé être moi-même avec vous, et ne revenez pas aux causes vulgaires ou grossières que vous avez supposées jadis. Quand je me sers du mot « oser », c'est qu'il convient parfaitement. Si nous étions tous les deux calmes, je vous prouverais que l'amitié sait être tendre et brave. Oui, Comte lui avait fait toutes sortes de reproches en disant « vous me proposez l'amitié en gros, mais c'est parce que vous ne m'aimez pas ». Elle dit « mais on peut aimer à travers une amitié ». Alors voilà le sens de cette explication. Et puis, très important, elle n'a pas osé. Il faut dire qu'Auguste Comte était tout de même un petit peu glaçant, hein. Et c'était une femme très spontanée. Finalement, quand ils se sont rencontrés, il ne s'est passé pas grand-chose. D'ailleurs, à un certain moment, elle est venue avec ses aiguilles pour pouvoir se tenir au coin du feu à côté de lui pour tenir compagnie par amitié. Mais elle ne trouvait pas trop forcément la spontanéité de la conversation. Comte n'était pas très spontané, il était aussi trop amoureux peut-être. Et puis elle était très intimidée par cet homme, qui était aussi très intimidant. Et elle termine sa correspondance par « J'ai beaucoup de choses amicales à vous dire. Il faut que je cesse pour aujourd'hui recevoir l'éternelle assurance de ma tendresse. » Vous voyez, c'est quand même touchant, c'est les tout derniers mots écrits pour la postérité par Clotilde Vaux. Le dimanche 5 avril 1846, après une longue et douloureuse agonie, elle s'éteint, ayant à peine dépassé donc son 31e anniversaire. Pour nous, il est désormais temps de conclure. Le préféminisme indéniable de Clotilde Vaux s'apprécie dans ses attitudes vis-à-vis d'une passion amoureuse masculine qu'elle parvint à maîtriser sans trahir sa propre liberté de femme, celle d'aimer chastement à travers le prisme d'une tendre et fidèle amitié. Ce préféminisme se donne à penser dans les idées qu'elle développe au cours de sa correspondance et dans ses modestes tentatives littéraires. Il est le reflet d'une époque où les choses commencent sérieusement à bouger pour ce qu'il en est de la condition féminine. Clotilde en partage les avancées et les atermoiements. Avec cette femme, au destin exceptionnel, nous avons aussi accès à une philosophie de vie toute simple, qui prend appui sur la considération d'autrui et la bonté pour surmonter les inévitables épreuves de l'existence. Clotilde Vaux peut donc être regardée et lue comme une moraliste sans système, arc-boutée sur l'expérience réelle et usant très souvent d'un style aphoristique. C'est enfin une figure authentique d'une certaine forme de romantisme. En elle, pointe un romanticisme élevé qui combat le pathos, se coltine courageusement à la dureté de l'existence et rêve non pas tant de gloire que de servir. Voilà. Merci.